France Inter.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, bienvenue au tribunal.
Bonjour, je m'appelle Basile, j'ai 7 ans. Qu'est-ce qu'il se passe quand aucun avocat, mais vraiment, vraiment aucun avocat, ne veut défendre un accusé ? Merci beaucoup, au revoir.
Oui, merci à toi Basile pour cette question tellement bien posée. Qu'est-ce qui se passe quand aucun avocat, mais vraiment, vraiment, dis-tu, aucun avocat ne veut défendre un accusé ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous, Laure Hennig, puisque vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris ?
Ça ne m'est pas encore arrivé, mais ça pourrait. On ne peut pas défendre tout le monde. Et on a ce qu'on appelle une clause de conscience. Donc on peut refuser. Mais le principe, et c'est pour ça aussi qu'elle est formidable, cette question de Basile, parce qu'elle englobe le rôle de l'avocat. Le principe, c'est qu'on est avocat pour défendre tout le monde. Et que si on avait une devise, ce serait les défendre tous. Mais il est possible, pour des raisons très personnelles, parfois, qu'on doive refuser la défense de quelqu'un qui vous demande de le défendre. Et tant mieux. Parce que si on n'est pas fait pour cette défense-là, on le fera mal. Et il y aura toujours un autre avocat pour le faire. Alors, la question, si jamais il n'y en a pas.
Vraiment, vraiment aucun.
Alors, c'est possible aussi. C'est arrivé dans les annales judiciaires. C'est arrivé pour quelqu'un qui risquait la peine de mort. Et aucun avocat ne voulait le défendre parce qu'il avait tué un enfant. Et à ce moment-là, nous, on a un représentant des avocats qui s'appelle le bâtonnier de l'ordre des avocats. Et lui, il a le pouvoir de commettre d'office, c'est-à-dire d'obliger un avocat, de demander à un avocat d'aller assister la personne. Et l'avocat, là encore, en dernier ressort, a le droit de dire « non mais vraiment, je veux pas ». Et si le bâtonnier trouve aucun avocat, il y va tout seul et il va lui-même défendre cette personne-là. Et là, il s'était fait aider par Robert Badinter.
Ah, et donc c'est le bâtonnier qui, en dernier recours, donc on va dire, c'est lui qui va être l'avocat de l'accusé.
Exactement, c'est lui qui va être l'avocat de l'accusé. C'est arrivé, je pense, très peu dans les annales judiciaires parce que c'est le fondement, en fait, hein, de la profession d'avocat, de défendre tout le monde. Et ça me fait penser au poème de Victor Hugo qui terminait par « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Et en fait, les avocats ont aussi l'honneur d'être celui qui défend quand personne ne veut défendre.
Et même si, alors évidemment, il y a toujours la présomption d'innocence jusqu'au jugement ou au verdict, mais qu'est-ce qui fait que un avocat ou une avocate va défendre tel ou tel monstre, comme le qualifieraient certaines personnes dans la société ?
Mais parce que justement, les avocats qualifient personne de monstre. On pense que, alors je dis parce que c'est assez classique dans la profession, que les gens peuvent commettre des choses monstrueuses, que la société va porter l'accusation contre ces personnes qui ont commis des crimes parfois atroces. Il n'en demeure pas moins que parfois, ils ont fait des choses qui méritent d'être dites dans un tribunal et qui méritent simplement de ne pas être accablées et donc d'avoir quelqu'un qui soit à leur côté pour pouvoir en parler. Et c'est parfois le dernier lieu. Et puis pour que les gens deviennent meilleurs, il faut qu'ils comprennent aussi le sens de leur procès et qu'ils aient été bien défendus. Donc si on veut espérer que les gens se réhabilitent, parce que finalement, quand ils sont condamnés, normalement, ils sont destinés un jour à sortir de détention, il faut qu'ils soient bien jugés, donc avec une défense digne de ce nom.
Je jure d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, serment que tout avocat doit prêter pour accéder à la profession. Salut les matelots !
Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur l'appli Radio France.